Je vous invite à prendre les Bibles devant vous, dans la deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre, tout le chapitre 2, page 803. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement, où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes et recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder, et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ceux qu'il a dominés. En effet, si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier.
Si vous le voulez bien, commençons par remettre ce temps à Dieu dans la prière. Père Céleste, merci pour ce passage que nous recevons comme une écriture qui vient de toi. Toute l'écriture est utile pour enseigner, pour reprendre, pour instruire dans la justice. Et on te prie que ce midi, effectivement, ton écriture fasse cette œuvre en nous. Que ce passage nous forme et nous équipe pour toute bonne œuvre, comme c'est ton intention. On prie ça au nom de Jésus. Amen. Voilà un passage qui n'aura pas manqué de vous interpeller. Un chapitre déroutant, une descente dans le gouffre. Le choc, c'est que ces prétendus enseignants font et feront partie de l'Église. Mais ces gens-là sont des chrétiens qui n'en sont pas. Pour ceux d'entre vous qui explorent la foi chrétienne, voilà matière à réfléchir. Il y a des chrétiens qui n'en sont pas. À mesure que vous découvrez l'Église visible, c'est-à-dire l'Église qui se donne à voir, soyez prêts à tout, et même au pire, car il y a des chrétiens qui n'en sont pas. Ayez du discernement dans vos investigations. Ouvrons les yeux, et ça vaut pour chacun d'entre nous. Certains pourraient être tentés de traiter ce chapitre comme une caricature poussive, de l'attribuer à Pierre, un apôtre vieillissant et inquisiteur. Mais ça serait mépriser tous ceux qui, à travers les âges, ont été blessés et trompés par de tels enseignants. Je n'ai pas besoin de vous citer les scandales sexuels et autres qui s'attachent à l'Église du Christ, malheureusement jusqu'à ce jour. Ne soyons pas naïfs, ouvrons les yeux, et c'est pas beau à voir. Le chapitre 1 ne nous a pas préparés à ce que la lettre prenne un tel tournant. On passe du blanc au noir, de la lumière aux ténèbres. Au chapitre 1, il était question d'une vie profitable et de perspectives glorieuses pour le chrétien. Au chapitre 2, il est question d'une vie de débauche et de perspectives désastreuses pour certains d'entre eux, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité, comme on le lit au verset 17. Comment ces chrétiens en sont arrivés là? En voilà la cause, ces prétendus enseignants ne connaissent plus Jésus comme Seigneur. C'est notre premier point, à partir des versets 1 à 3 et 18 à 22. Certains auront déchu par méconnaissance de Jésus comme Seigneur. La perspective du Seigneur Dieu de la fin des temps, autant glorieuse que justicière, cette perspective-là a disparu de leur champ de vision. Regardez la fin du verset 1. « Allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés ». La connaissance de Jésus comme leur Seigneur a effectivement disparu de chez ces gens-là. La même idée revient en versets 19 et 20. Regardez-les. Verset 19, « Ils promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. » Ces enseignants sont désormais esclaves d'un autre Seigneur que Jésus-Christ. Et ce qui est arrivé à ces gens-là est lié à une méconnaissance. Ils auront déchu de la grâce par défaut de connaissance de Jésus comme Seigneur. Par contre, j'imagine que Jésus Sauveur, ça leur convient toujours bien. Et pourtant, connaître Jésus autrement que comme Seigneur, c'est ne plus le connaître du tout. Je suis bien conscient que ces versets sont troublants. Est-ce qu'on peut vraiment connaître Jésus, mais pour un temps seulement? Je ne serais pas surpris si pour certains d'entre vous, la déchéance pour un chrétien, c'est le risque zéro. Eh bien, détrompez-vous, car ces individus-là ont vraiment goûté à Jésus, pour un temps seulement, avant de s'en détourner. Et leur jugement sera d'autant plus sévère. Si leur dernière condition est pire que leur première, c'est aussi parce que le jugement qui les attend sera double. Historiquement, ils auront fait partie de l'Église. Ils auront reçu le baptême. Ils auront pris la communion en bonne conscience. L'apôtre Pierre n'hésite pas à affirmer à propos d'eux qu'ils sont au bénéfice de la rédemption de Jésus. Est-ce que vous avez remarqué ça? Au verset 1, « Le Seigneur les a rachetés ». Autrement dit, la grâce leur a été donnée, mais la grâce de persévérer ne leur a pas été donnée, ça c'est clair. Comment est-ce qu'on explique cette situation-là? Il ne faut pas que cette déchéance nous surprenne. Rappelez-vous l'Exode. La sortie d'Égypte semblait être au bénéfice de tout Israël, de tout le peuple. C'était effectivement un rachat de tout Israël. Or, la Bible nous montre que dans cette génération-là qui a connu l'Exode, seule une fraction aura été sauvée en vue d'entrer dans la terre promise. Cette fraction aura fait partie de ce qu'on appelle l'Église invisible, l'Église universelle, dont Jésus connaît seul les contours. Ici-bas, vous et moi naviguons à vue. Tous les membres de l'Église semblent être sauvés à un instant T. Mais ce qui importe, c'est que la vie des fidèles soit soumise à la Seigneurie de Christ jusqu'au bout, jusqu'au temps du salut. Les quelques-uns qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur, puis s'en détournent, on peut dire d'eux qu'ils ont fait partie de l'Église historique de Christ, mais qu'ils ne feront pas partie de l'Église ultime. Voyez le verset 2. Ce qui importe, c'est ce qu'on peut affirmer sur la durée. Verset 22. Le chien est retourné à ceux qu'il avait vomi. La truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Vous aurez noté que le verset 1 utilise le futur pour préparer toutes les générations à venir à la présence de tels gens. S'ils ne sont pas forcément nombreux dans chaque génération, ils n'en seront pas moins influents. Qui sont-ils aujourd'hui? Des personnes qui feront pleinement partie de nos cercles chrétiens. Et c'est pourquoi elles se refusent à les quitter quand leurs convictions changent. Prenez un exemple. Imaginez un homme politique, membre historique du Parti socialiste, qui se retrouverait en position d'autorité. Entre-temps, il aura peut-être basculé à droite et se mettra à pousser des réformes de droite. Eh bien, je vous assure qu'il continuera de rester sous la bannière socialiste. C'est pareil pour ses enseignants. Les convictions changent, mais il n'y a pas de raison de penser qu'ils changent de camp. Jésus Sauveur, ça leur va bien. La grâce, ça leur va bien. Le mois dernier, toute une frange de l'Église protestante unie de France a été exposée au grand jour. Vous savez sans doute que les PUF a finalement adopté un geste de bénédiction du mariage homosexuel. Pour qu'une dénomination anciennement réformée en arrive là, il faut sans doute que Jésus-Christ soit systématiquement méconnu comme Seigneur et Sauveur. Relisons ensemble verset 2. Verset 2, « Beaucoup les suivront dans leur immoralité sexuelle, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » La voie de la vérité, c'est ce chemin jusqu'au Christ glorieux dont il a été question au chapitre 1. Un chemin qui commence maintenant et au bout duquel on partagera la nature divine. Rien de moins. Au chapitre 1, Pierre établissait que contempler la majesté du Christ, ça suffisait à nous mettre sur cette trajectoire. Ça devait changer nos vies, ça devait façonner nos aspirations et réformer nos vices. Et on en conclut du coup que célébrer des vices, quels qu'ils soient, c'est n'avoir pas vu ou avoir perdu de vue ce Seigneur majestueux. Attention, il ne faut pas croire que de telles situations, celles décrites dans ce chapitre, sont limitées à l'Église institutionnelle, à l'Église libérale. Non, nos églises évangéliques sont aussi concernées. Est-ce que vous connaissez par exemple des chrétiens qui, de façon fonctionnelle, ont cessé de reconnaître Jésus comme Seigneur? Je parle ici d'une méconnaissance systématique qui ne soit pas assortie de repentance, car sinon, tous nous serions dans le radar, car tous nous faisons beaucoup trop peu de cas de la Seigneurie du Christ. J'évoque ici le cas de chrétiens qui auraient commencé à décrocher sans pour autant formaliser ce décrochage. Ça pourra se manifester de toutes sortes de manières. Ça pourra commencer à se manifester par un refus de restreindre la liberté sexuelle des uns et des autres. Par exemple, certains dans nos églises se réjouissent de ce que leurs jeunes continuent d'aller à l'église. Ils s'en réjouissent à tel point qu'ils refusent d'exposer et reprendre l'immoralité sexuelle de ces jeunes, alors même qu'elle pourrait être évidente. Est-ce que ça ne reviendrait pas de la part de telles personnes à encourager la méconnaissance de Jésus Seigneur? Est-ce que ça ne revient pas à promettre la liberté, pour reprendre ce langage du verset 18? Oui, pour le moment, la vie de ces personnes ne sera pas forcément aussi débridée, aussi extrême qu'on aurait pu le penser sur la base de ce chapitre. Mais si c'est par la méconnaissance que tout commence, c'est pas seulement aux fruits qu'on regardera, on s'intéressera aussi aux convictions. Car c'est dans la tête que tout commence. Comme dit le proverbe, le poisson pourrit toujours par la tête. Alors soyons avertis. L'Église de Christ ne sera jamais libre de troubles internes jusqu'au retour de Christ. Il y aura toujours dans l'Église visible des chrétiens qui ne persévéreront pas jusqu'au bout. Jusqu'au retour du Seigneur, dans les rangs de l'Église, il y aura toujours une cinquième colonne. La cinquième colonne, c'est ce bataillon déloyal de partisans qui aura déjà infiltré la ville avant son assaut. Jusqu'ici, c'est plutôt intimidant. Comment est-ce qu'il nous faut comprendre l'avertissement de Saint-Pierre ? Remarquez bien que ce chapitre 2 ne contient aucun impératif, aucune injonction. Comment est-ce qu'il nous faut comprendre cet avertissement ? Alors, à partir de là, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Est-ce qu'il s'agit de ramasser des pierres et lapider ces faux enseignants à la manière des prophètes des temps jadis ? Les versets 4 à 11 nous aident à répondre à cette question au cours de notre deuxième point. Et une chose est certaine, la destruction de ces personnes ne relève pas de nous. Qu'un désastre attend de ces personnes s'est établi au verset 4 à 6. Trois précédents bibliques sont invoqués. Premièrement, le traitement des anges déchus, au verset 4. Deuxièmement, le déluge, au verset 5. Et troisièmement, la destruction de Sodome et Gomorre, au verset 6. Destruction qui fait l'objet de ce tableau qui figure sur le flyer de la série de prédications. Méconnaître le Seigneur Jésus, ça conduit au désastre. Voilà ce dont les trois précédents attestent. Mais les versets 7 à 11 qui font suite explicitent que c'est Dieu seul qui se mêle de cette destruction. Verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Autrement dit, c'est Dieu qui fera périr les faux enseignants et qui délivrera ses fidèles. Si c'est le cas, avec quel fardeau est-ce que ce chapitre 2 va nous laisser ? Est-ce que nous sommes finalement réduits à l'inaction et au tourment à la manière de Lot ? Quelques points à ce sujet. Tout d'abord, la condamnation des faux enseignants est décidée dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'en rajouter. Même les anges ne se hasardent pas à prononcer des jugements contre les anges déchus, ces êtres néanmoins glorieux. Alors gardons-nous de vociférer afin que la déclaration de Dieu soit suivie de jugements effectifs à l'égard des faux enseignants qu'on rencontrera à droite et à gauche. Non, à l'égard de ces gens-là, on fera bien de méditer ces paroles de Hébreux, chapitre 10, versets 28 à 31, que je vais vous lire ici. « Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de deux ou trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » C'est Dieu qui fera périr les faux enseignants. Quant à nous, on ne s'en mêlera pas. Par contre, il y a une chose à laquelle on pourra vouloir s'attacher. Et c'est Noé qui nous met sur la piste. Voyez le verset 5. Prédicateur de justice. Littéralement, messager de justice. Le texte de la Genèse ne fait aucunement mention de cette qualification. Il n'est pas question de Noé comme un prédicateur dans la Genèse. Et du coup, cet usage par l'apôtre Pierre doit retenir notre attention. Imaginez Noé en train de construire son arche, au milieu du désert, à des centaines de kilomètres de la mer la plus proche. Imaginez ses contemporains qui ricanent sans doute de sa démarche. Imaginez les opportunités qu'il aura d'expliquer la colère de Dieu et d'annoncer la voie de la justice. Noé aura été un prédicateur de la justice. Il aura parlé du salut pour tous les pécheurs qui recevront la parole de Dieu et se repenteront. Si Dieu ne s'apprêtait pas à juger et à délivrer, il nous incomberait sans doute d'en faire plus. Mais parce que Dieu est à l'œuvre, ici et là, on peut s'en remettre à lui. Et se contenter de prêcher la voie de la justice à la manière de Noé. Un prêche qui sera sans doute marginalisé, ridiculisé, isolé, mais un prêche néanmoins. Là où l'impiété commencera à apparaître dans nos églises, là où le faux enseignement gagnera du terrain, on s'attachera à être des prédicateurs de justice. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Au verset 12 à 17, il remet une couche et il peint ses faux enseignants avec toute la palette de couleurs à sa disposition. C'est un tableau affreux. Méconnaître le Seigneur Jésus, c'est affreux à voir. C'est notre deuxième point. Troisième, plutôt. Méconnaître le Seigneur Jésus, c'est affreux à voir. La première manifestation qu'on voit dans ces versets, c'est la parole débridée. Verset 12, ces gens-là sont pareils à des animaux dépourvus de raison. Verset 16, ils ont fait preuve de folie. Première manifestation, parole débridée. La seconde, l'immoralité sexuelle. Verset 13, une abondance de descriptions ici, débauche de plein jour, perversion, souillure. Verset 14, adultère. Et la troisième manifestation, c'est le matérialisme avide. Verset 14, la soif de posséder. Parole débridée, immoralité sexuelle, matérialisme avide. C'est affreux à voir. Alors à quoi bon ces versets 12 à 17 en particulier ? Après tout, Pierre offre ce tableau à des gens comme vous et moi, pleins de bonne volonté, qui sont probablement à des années-lumière de ces débauches. Pourquoi est-ce que Pierre voudrait nous imposer un tableau aussi effroyable, un tableau aussi coloré ? Eh bien, comment est-ce que ces versets vous font vous sentir ? Si vous êtes comme moi, cette description a l'effet d'un repoussoir. Et voilà d'ailleurs pourquoi Pierre finit son chapitre avec cette description écœurante d'un chien qui retourne à son vomi. Voir la profondeur du fossé permet de veiller à la droiture de son pas sur le droit chemin. À un premier niveau donc, ce chapitre doit nous immuniser personnellement. C'est comme un vaccin. À toute petite dose, on est exposé à la bactérie. Et comme tout vaccin, cette stratégie n'est pas sans risque. Certains d'entre vous pourraient lire ces quelques versets et en être troublés, car après tout, on voit des soi-disant chrétiens qui se lâchent et qui satisfont tous nos désirs secrets. Mais Pierre choisit suffisamment bien ses mots pour nous éviter toute nostalgie d'immoralité. Entre-temps, avoir reçu un vaccin à petite dose, un seul chapitre, ce chapitre 2, ça développera des anticorps, de telle sorte qu'on tiendra ferme. On ne sera pas de ces personnes mal affermies dont il est question au verset 14, au milieu de ce verset 14. Quant à nous, nous serons affermis. Justement, tournez la page et regardez au chapitre 3, le verset 17. De Pierre, chapitre 3, verset 17. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Immunisation personnelle donc, c'est un des enjeux de ce chapitre. Ceci dit, tous les détails de ce chapitre sont également profitables à un autre titre, plus positif. Pierre démontre ici que la connaissance de Jésus Seigneur est nécessaire à la piété. Cet élément-là est plus important qu'il n'y paraît. Est-ce que vous vous souvenez comment Pierre avait commencé sa lettre au chapitre 1 ? Chapitre 1, verset 3. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Pierre nous montrait alors qu'avoir le Seigneur de gloire dans le radar, ça suffisait à la piété. Autrement dit, la bonne connaissance impliquait la piété. C implique P. Pour établir que la connaissance de Christ Seigneur soit nécessaire à la piété, qu'est-ce qu'il nous faut encore ? En toute logique, il va falloir démontrer que l'absence de connaissance implique l'absence de piété. Et c'est l'objet de ce chapitre 2. La connaissance du Seigneur est donc suffisante et nécessaire à la piété. Or, la piété, c'est ce à quoi on aspirera, car c'est à la piété que s'attache la délivrance. Vous voyez le verset 9 ? Ceux qui sont délivrés sont décrits comme des hommes pieux. Soyons alors de ceux qui mettent le paquet sur la connaissance de Jésus comme Seigneur. Et comme Joe nous le rappelait le mois dernier, toute la Bible est à notre disposition pour ce beau projet de connaître Jésus comme Seigneur. Si la connaissance du Seigneur est nécessaire à la piété, il s'ensuit qu'en dehors de la connaissance, il n'y a pas de piété. Ceux d'entre vous qui ne sont pas encore chrétiens comprendront combien mon propos est tranchant. Quand je dis « en dehors de la connaissance de Jésus Seigneur, pas de piété », ça ne vous laisse aucune marge de manœuvre en matière d'amélioration morale. Comme quoi, Christ, ce n'est pas du luxe. Oui, on peut dire aux chrétiens « ton Christ Seigneur, c'est très bien pour toi, mais pour moi, non merci ». Mais si on pense qu'on peut se passer de la connaissance de Jésus, on se fourvoie. Ça serait se couper de la seule source d'excellence morale et de droiture qui soit jamais disponible ici-bas. Au bout du compte, ça serait se condamner à l'impiété, l'abaissement et l'avilissement. Comme quoi, Christ, c'est pas facultatif. En dehors de la connaissance de Jésus, Seigneur, impiété. Et c'est saint Pierre qui l'établit ici, pas moi. Qui voudrait consciemment s'engager dans une telle direction ? Examinons plutôt ce Jésus dont on vous parle tant à St. Helens et en dehors. Jésus-Christ glorieux, excellent, droit, juste et vertueux. Et si on se saisit de lui, on aura toute une vie pour savourer ce que sa Seigneurie pourra accomplir en nous par la puissance de Dieu. Il nous faut désormais conclure. Voilà ce dont Pierre aura voulu nous convaincre au chapitre 2. La méconnaissance de Jésus comme Seigneur, ça inaugure toute impiété et ça conduit au désastre. Pourquoi ce chapitre 2 est-il donné à lire aux chrétiens ? Parce que contempler un tel tableau, ça change la vie. Contempler un tel tableau, ça change la vie. Étonnamment, ce chapitre n'encourage ni l'inquisition, ni la chasse aux sorcières. Dans ce chapitre, on en a besoin à titre personnel et individuel d'abord. Ce chapitre nous est donné en somme pour trois raisons. Pour nous immuniser à titre individuel, pour nous encourager à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et continuer à le faire, et pour nous établir comme prédicateurs de la justice. Vous trouverez quelques questions sur vos feuillets pour nourrir votre discussion dans les prochaines minutes. Avant cela, je vous propose de prier ensemble. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous instruit dans la justice. Donne-nous de reconnaître que naturellement la piété nous échappe. Donne-nous cette humilité-là. Donne-nous de voir que nulle bonté, nulle excellence morale n'est possible en dehors de la révélation de Jésus comme Seigneur. Merci de nous avoir fait connaître Jésus comme Seigneur et d'avoir ainsi redirigé nos vies. Veuille continuer à le faire. Permet que nous nous concentrions toujours sur la connaissance de Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. On prie ça pour notre bien-être présent, pour notre bien-être éternel et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.